VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Niger, l'épidémie de choléra a tué 67 personnes sur plusieurs milliers de malades recensés, principalement dans la région de Maradi, proche du Nigeria. C'est ce qu'a annoncé l'ONU ce jeudi en citant un rapport du ministère nigérien de la Santé. Niamey avertit que l'épidémie s'est propagée à d'autres régions du pays, notamment Dosso dans le sud-ouest, Tarwa dans l'ouest et Zinder dans le centre-sud, d'où l'appel du ministère de la Santé annonçant un renforcement de la surveillance sanitaire et appelant les populations à la vigilance. Le précédent bilan onusien datant du 10 septembre avait fait état de 55 décès. La lutte contre les djihadistes en Afrique maintenant, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, a concédé mercredi que la force conjointe du G5 Sahel peinait à devenir opérationnelle. À la tribune de l'ONU, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, écoutons le président Ibeka à New York.
Le Sahel reste confronté depuis plusieurs années au terrorisme, à la criminalité transnationale organisée et au trafic en tout genre, notamment celui de la drogue, des armes, des marchandises illicites, de migrants, de blanchiment d'argent. Nous avons mis en place en novembre 2014 à Nouakchott ce que nous appelons le G5 Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, afin de mutualiser nos efforts pour faire face dans notre espace aux questions de sécurité et de développement. Cependant, la force conjointe du G5 Sahel peine à être pleinement opérationnelle, faute d'un mandat adapté et surtout de financement approprié. C'est pourquoi nous continuons de demander au Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de cette force sous le chapitre 7 de la Charte, assorti d'un financement adéquat, pérenne et prévisible, y compris à travers les Nations Unies, afin de lui permettre d'accomplir durablement et efficacement sa mission.
Le chef de l'État malien à la tribune de l'ONU à New York. Au Burkina Faso, la multiplication des attaques terroristes dans le nord frontalier du Mali et du Niger, et aussi dans l'est du pays, soulève de plus en plus de questions sur la capacité des forces de sécurité à défendre le territoire national. Les détails avec Bagassi Koura.
Le Burkina Faso, longtemps à l'abri, est entré dans un cycle de violence qui s'accélère avec des attaques incessantes et des zones d'insécurité de plus en plus grandes. Attaques, enlèvements, explosions, il ne se passe plus une semaine sans que les djihadistes présumés ne fassent parler la poudre. Mercredi, 8 soldats ont perdu la vie en sautant sur un engin explosif artisanal dans le nord près de Djibo. Dimanche, 3 gendarmes ont été tués après l'enlèvement d'un Indien, d'un Sud-Africain et d'un Burkinabé travaillant dans la mine d'or d'Ina. Une double attaque dans des villages a fait 9 morts dans l'Est le 15 septembre et la nouvelle explosion d'un engin artisanal a coûté la vie à 2 soldats le 5 de ce mois. Le mois d'août a déjà été sanglant avec 13 personnes tuées par l'explosion de 2 mines artisanales ainsi que la mort d'un douanier dans une autre attaque. Hier mercredi, l'AFP a écrit que, je cite, « l'armée a perdu pied, incapable d'enrayer la spirale malgré des déclarations volontaristes » mais sans effet du président Roch Marc Christian Kabore. Pour Bakary Samre, directeur du Timbuktu Institute, après le Nord, si l'Est est pris, il y a risque de débordement vers des pays qui étaient très éloignés de l'épicentre, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso constitue un verrou entre le Sahel et les pays côtiers dans la lutte contre le terrorisme. S'il saute, ses voisins seront atteints, a averti le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry.
En Côte d'Ivoire, plus de 4000 personnes détenues pour des délits jugés mineurs vont bénéficier d'une grâce présidentielle dans le pays. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres mercredi. Le point avec Nani Talani.
Le communiqué du Conseil des ministres précise qu'il s'agit d'un acte de clémence et de pardon qui concerne 4200 des quelque 19 000 prisonniers. Cette grâce ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement, ni l'arrêt de condamnation. Ces mesures coïncident avec une déclaration des syndicats de l'administration pénitentiaire qui dénonce une surpopulation carcérale, la vétusté des bâtiments, le manque de moyens et l'absence d'une logistique adéquate. Les gardiens de prison réclament aussi des meilleures primes. Au regard des injustices subies par le personnel pénitentiaire, nous en appelons à l'arbitrage du président de la République, voire organiser des états généraux de l'administration pénitentiaire, déclare Stéphane Kouadio Boko, un syndicaliste. Cette année, c'est la deuxième fois que des prisonniers bénéficient d'une amnistie en Côte d'Ivoire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Relations États-Unis-Afrique, la première dame des États-Unis, Melania Trump, a annoncé mercredi qu'elle se rendrait début octobre dans 4 pays africains. Son premier grand voyage en solo dédié à la cause du bien-être des enfants. Les pays concernés sont le Ghana, le Malawi, le Kenya et l'Égypte. Par ailleurs, à New York, pour sa première participation à l'Assemblée générale de l'ONU en tant que secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, l'ambassadeur Tibor Nagy a accordé une interview à Aide Fitzpatrick de La Voix de l'Amérique. Il a évoqué quelques-uns des grands développements politiques sur le continent africain. Précision de Michel Joseph.
Ancien ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, en Guinée, diplomate dans plusieurs autres pays du continent, l'ambassadeur Tibor Nagy s'est prononcé sur la décision du président Joseph Kabila de la RDC de ne pas briguer un autre mandat.
Très souvent, les gens croient que les États-Unis soutiennent les candidats de l'opposition dans toutes ces élections africaines. La vérité absolue, et je ne le soulignerai jamais assez, est que les États-Unis n'ont aucun candidat dans toutes ces élections. Notre seul candidat, c'est le processus.
Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines s'est félicité des audacieuses réformes engagées en Éthiopie par le premier ministre Abiy Ahmed.
Cela demande un immense niveau de confiance pour que le leader d'un État dictatorial, dont les origines remontent à 2000 ans, décide tout d'un coup de faire confiance au peuple, de se dire « nous allons faire confiance au peuple » et prendre ses décisions.
L'ambassadeur Tibor Nagy, qui a servi au Zimbabwe, a souligné le grand potentiel de ce pays. Il a évoqué sa relation personnelle avec cette nation.
Mes triplés étaient les premiers triplés nés dans le Zimbabwe indépendant, donc je me sens très lié à ce pays. Et rien que les opportunités touristiques, il n'y a presque pas de secteur où le Zimbabwe ne puisse pas exceller. Ce qui est essentiel maintenant, c'est l'action concrète.
Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, tient son élection présidentielle en 2019. Un scrutin qui sera suivi avec grand intérêt par Washington, a indiqué le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Les élections nigérianes sont toujours excitantes avec beaucoup de dynamisme, de débats et d'efforts de positionnement des partis. Je pense que ce sera le quatrième transfert pacifique et démocratique du pouvoir d'un gouvernement à l'autre.
Réagissant à l'idée selon laquelle la Chine est en train de s'imposer en Afrique, l'ambassadeur Tibor Nagy a souligné les nombreuses initiatives américaines en faveur du continent, allant du PEPFAR à Power Africa, en passant par la coopération sécuritaire.
Actualité américaine, le président Donald Trump a, dans une conférence de presse hier à New York, a accusé ses adversaires démocrates d'avoir lancé un effort concerté pour soulever des attaques de méconduite sexuelle contre le juge Brett Kavanaugh, son candidat à la Cour suprême des États-Unis. Ce dernier, qui dément les allégations et parle de campagne de dénigrement, fait maintenant face aux accusations de 5 femmes. La première, Christine Blasey Ford, qui dit avoir été victime d'agressions sexuelles dans les années 1980, doit participer aujourd'hui, tout comme M. Kavanaugh, à des audiences publiques au Congrès de la Commission judiciaire du Sénat, qui examine la nomination du juge. Les détails avec Abdourahman Dia.
Donald Trump a estimé que les nouvelles accusations d'abus sexuels portées contre son candidat étaient fausses. Il a aussi attaqué l'avocat qui les a rendus publics. Dans un message sur Twitter, le président a déclaré que Michael Avenatti, qui défend déjà l'actrice de film porno Stormy Daniels, engagée dans une bataille judiciaire avec Donald Trump, est un avocat de bas étage qui n'est qu'au bon à porter de fausses accusations. Il cherche juste à attirer l'attention, poursuit le dirigeant américain. Julie Swetnick, la troisième femme qui accuse le juge, évoque dans une déclaration sur l'honneur hier une dizaine de fêtes de lycéens entre 1981 et 1983, durant lesquelles Brett Kavanaugh et Mark Judge, qualifiés de frères siamois, buvaient de l'alcool en quantité. Elle les accuse aussi de comportements inappropriés sur les femmes. Les républicains du Sénat ont engagé une femme avocate pour interroger la première accusatrice et Brett Kavanaugh. Et la commission devrait en principe passer au vote demain vendredi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.